Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour auditeuristes de Nantes ou d'ailleurs, bienvenue sur la planète Ligue des droits de l'homme, section nantaise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, la réforme des retraites avec Jean-Michel.
Ce qui nous fait marcher depuis le 17 janvier, le jour du premier appel de la LDH à se mobiliser avec les syndicats pour protéger la répartition, le système de retraite par solidarité, c'est les droits sociaux, l'égalité et la justice.
Bah, c'est la réforme des retraites dont on ne veut pas. Donc moi, je continuerai à venir aux manifestations tant que ça ne sera pas retiré.
La défense des droits, la défense des libertés, la défense, voilà, c'est tout ça qui me fait marcher.
Donc aujourd'hui, 6 mars, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour le retrait de la réforme des retraites, qui est injuste et inutile. Et pour la deuxième, pour défendre nos droits, parce que avec le durcissement du régime organisé par le gouvernement Macron, on se voit qu'aujourd'hui, la LDH a son rôle à jouer. Aujourd'hui, ce qui devient encore plus important que le retrait de la réforme des retraites, ça va devenir la défense de nos droits les plus basiques, comme la liberté de manifester, qui découle de la Constitution. Donc c'est pour ça que je suis là.
La Ligue des droits de l'homme a envoyé un message clair à ses adhérents en lançant avec les organisations syndicales et d'autres associations un appel à manifester contre la réforme des retraites. En quoi la LDH considère-t-elle que cette réforme est une atteinte aux droits des citoyens ?
Elle l'est, me semble-t-il, à un double titre, par ce qu'elle dit et par les conditions dans lesquelles elle a été adoptée. Disons qu'elle porte atteinte à la fois à des droits sociaux importants, donc une retraite par répartition dont on peut penser que la loi détricote un petit peu le principe tel qu'il avait été posé en 1945. Et deuxièmement, le choix fait par le gouvernement de la faire adopter selon une procédure d'exception qui a assez largement fait obstacle à ce que les débats parlementaires puissent aller jusqu'au fond de la discussion sur le contenu du texte.
L'État évoque quand même la somme de 500 milliards de dettes. Alors, quelle solution proposez-vous pour équilibrer le régime des retraites ?
C'est un montant qui est d'abord discuté aujourd'hui par notamment le Conseil national, le Conseil d'orientation des retraites, mais également c'est un chiffre, admettons-le comme exact, qui correspond à un instant déterminé. Donc c'est une sorte de photographie instantanée de la situation du régime des retraites dont on peut considérer que des modalités autres que celles de l'allongement de la durée d'activité, puisqu'on passe de 62 à 64 ans, sont possibles. Il y en avait une qui était un petit peu évidente, c'était l'augmentation des cotisations. Après tout, pourquoi pas ? Notamment une patronale. L'autre consistait à inventer peut-être une vieille lune, mais les vieilles lunes éclairent toujours un petit peu la nuit, qui consistait à dire, comme aujourd'hui, le facteur travail devient un petit peu secondaire ou un petit peu est placé au second plan et que des phénomènes d'automatisation font que des machines l'emportent sur l'intervention des bras des ouvriers ou des salariés, pourquoi ne pas prévoir une fiscalité sur ce type d'activité ? Donc peut-être également fiscaliser les grandes fortunes. Enfin, il y a toute une série de choses. Le principe, me semble-t-il, qu'il fallait avoir en tête et qu'il faut maintenir, c'est que c'est essentiellement par le biais de la cotisation quand même qu'on arrivera à un équilibre, et non pas par le biais d'un transfert sur la fiscalité ou éventuellement d'autres modalités qui aboutiraient, grosso modo, à rendre les rapports sociaux un petit peu secondaires dans le mode de financement du régime de retraite.
On a entendu Elisabeth Borne parler de réforme féministe alors que beaucoup l'ont dénoncée comme pénalisante pour les femmes. Pouvez-vous nous donner votre point de vue en tant qu'association de défense des droits des hommes et des femmes ?
La réforme est ni juste ni féministe. Comme d'ailleurs le régime actuel des retraites est un régime qui défavorise les femmes. Or, pour des raisons qui tiennent aux carrières des femmes très souvent, à savoir que ces carrières sont interrompues, les amènent souvent à avoir des emplois de niveau de qualification inférieur, enfin, ou à niveau même de qualification égale, avec des rémunérations inférieures à celles des hommes. Alors, certains petits ajouts ont été introduits dans la loi, comme par exemple des trimestres ajoutés pour des congés parentaux. Enfin, il y a toute une série de petits machins que la loi intègre, mais qui ne sont pas faits pour rétablir une égalité entre les femmes et les hommes. Le seul élément d'équilibrage, il est paradoxal, c'est les pensions de réversion, qui effectivement permettent, lorsque le mari est mort, de récupérer un pourcentage souvent substantiel de la pension de retraite du mari. Mais les femmes en elles-mêmes, si on devait évoquer leur statut au regard du droit à la retraite, sont en permanence défavorisées pour des raisons qui tiennent à leur statut social. C'est que la France n'est pas un pays d'égalité sociale entre les hommes et les femmes. Donc il est assez naturel, malheureusement, que le régime de retraite reproduise cette inégalité. Et la loi qui a été votée ne change rien à la chose.
Alors après le contenu, revenons-en à la forme. Certes, le gouvernement a eu recours au 49-3, mais comme il le dit lui-même, cela reste un recours démocratique. Qu'avez-vous à en dire ?
Le gouvernement a d'abord eu recours au 47-1, c'est-à-dire à une procédure qui s'applique aux lois de finances en général et aux lois de financement de la sécurité sociale, puisque c'est une loi modificative ou rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale. Le choix de cette procédure était destiné à enfermer le débat dans un laps de temps limité, 50 jours. Et le 49-3 est venu un petit peu clôturer cette sorte de déni de principe de démocratie en éludant en quelque sorte le vote, puisque la seule possibilité offerte aux parlementaires par le 49-3, c'est de déposer et de voter une motion de censure. Mais la motion ne peut être votée que si une majorité absolue de membres de l'Assemblée nationale vote la motion de censure. Donc, oui, il y a véritablement le choix de dispositions constitutionnelles qu'on peut considérer comme légales, mais à mon sens, elles ne sont pas légitimes. Il y a, dans le choix de cette procédure, un débat central entre légalité et légitimité. Oui, c'est légal, mais je pense que ce n'est pas légitime, et compte tenu de l'importance, de l'intensité, du changement apporté par la loi, il était, me semble-t-il, nécessaire de laisser les débats aller jusqu'à leur terme, fût-ce en laissant le Parlement voter et à la limite rejeter le texte.
Nous sommes aujourd'hui le 14 avril, il est 18h45. Alors quelle est votre réaction à chaud par rapport à la décision du Conseil constitutionnel ?
D'abord une immense déception, puisqu'on pouvait envisager que le Conseil constitutionnel fasse preuve d'un certain courage et qu'en particulier il s'intéresse plus qu'il ne l'a fait à la procédure utilisée pour faire adopter ce texte. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. Il a décidé de valider l'essentiel de la loi, en particulier le passage de 62 à 64 ans. Il a déclaré inconstitutionnel essentiellement la disposition des articles 2 et 3, pas simplement, mais surtout les articles 2 et 3, qui concernent le premier, l'index senior, et le second, les contrats à durée indéterminée qui étaient envisagés pour maintenir au travail les seniors. Donc c'était plutôt des éléments positifs dans le texte. Donc on peut considérer qu'il a déshabillé le texte des quelques éléments qu'on pouvait considérer comme positifs, mais l'essentiel était quand même la contestation portant sur la globalité de la loi et en particulier le passage de 62 à 64 ans. Et là, le Conseil constitutionnel valide cette partie de la loi.
Et que pensez-vous du refus du référendum d'initiative populaire ?
Alors d'une part, c'était une innovation qui, pour la première fois, venait devant le Conseil constitutionnel, puisque le RIP est une procédure qui a été introduite dans la Constitution récemment, en 2008, et qui, pour pouvoir être convoqué, le référendum d'initiative populaire, il doit d'abord être validé par un certain nombre de parlementaires. C'est le cas d'ailleurs, puisque même la nouvelle demande de RIP qui vient d'être déposée aujourd'hui réunit un nombre de parlementaires suffisant pour que la première phase de la procédure s'engage. Mais il faut également que le projet soit validé par un dixième des électeurs, donc à peu près 4 900 000 personnes. Pour l'instant, aucun RIP n'a pu aller jusqu'au terme de cette logique. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne pouvait pas l'accepter pour un motif, me semble-t-il, un peu rapide, en considérant que le référendum d'initiative populaire, alors c'est un peu technique, ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 11 de la Constitution, qui est relative au référendum législatif et qui en particulier considère que le référendum ne peut porter que sur des questions d'abord relatives à l'organisation des pouvoirs publics, à la politique économique générale. Donc il a considéré qu'il n'avait pas sa place au regard du caractère un petit peu strict des dispositions de l'article 11 de la Constitution. Je pense que c'est une interprétation un petit peu abusive de la part du Conseil constitutionnel.
Alors, difficile de ne pas parler de cette réforme sans évoquer les violences qui ont eu lieu dans les rues de Nantes. À ce sujet, pouvez-vous nous parler de l'Observatoire national des libertés, qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme ? Avez-vous pu constater des choses lors des dernières manifestations ?
C'est surtout une montée de l'impatience. Et lorsque l'impatience se fait trop sensible, et que du côté du gouvernement, il y a la volonté de faire taire l'impatience, il peut arriver que des confrontations aient lieu. Et le rôle de l'Observatoire des libertés publiques, c'est précisément de jeter un regard un petit peu neutre, mais éclairé, sur ces violences, notamment dans le maintien de l'ordre. Et notre crainte, c'est que la situation telle qu'elle résulte de la décision du Conseil constitutionnel, mais du vote de la loi, puisque le Conseil constitutionnel n'a été là que pour jeter un regard sur la loi, éventuellement considérer qu'elle pouvait être ou non contraire à la Constitution, je crains qu'on assiste à des phénomènes de crispation encore plus importants et qu'on est à redouter encore des violences à la fois du côté des manifestants, parce que je pense qu'on a constaté qu'il y avait des violences du côté des manifestants, et ce n'est pas non plus un très bon signe, mais également des violences mal maîtrisées de la part des forces de l'ordre, d'où l'intérêt pour la Ligue des droits de l'homme de maintenir son regard à la fois éclairé et vigilant sur ce qui se passe dans les manifestations, parce qu'il serait inconcevable que des événements graves se déroulent et qu'on se limite à considérer que c'est la faute à pas de chance, quoi. C'est pas comme ça que la Ligue des droits de l'homme perçoit la question du rapport entre le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, et l'exigence du maintien de l'ordre public, qui est une autre exigence. Je ne sais pas si elles sont à même hauteur dans la hiérarchie des exigences, mais si... Dès la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y avait quand même la mise en parallèle du droit à la sûreté et de la résistance à l'oppression. Ben, c'est un peu la même chose qu'on voit aujourd'hui. Certes, la sûreté des biens et des personnes doit être garantie, mais ça ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse y avoir, lorsque c'est ressenti comme tel, une résistance à l'oppression.
La décision vient de tomber, la nouvelle est toute fraîche, mais comment pensez-vous que la Ligue des droits de l'homme va se positionner par rapport à cette décision ?
Alors, je ne prendrai pas d'engagement pour la Ligue des droits de l'homme, mais je vous donne mon sentiment, parce que bon, je le défendrai lorsque la LDH sera amenée à statuer. Je pense qu'il convient que nous poursuivions dans l'engagement de notre soutien au mouvement social. On est un peu dans l'attente de la position des syndicats, mais je pense que les syndicats avaient déjà dit qu'ils ne s'arrêteraient pas dès lors que la question du report de l'âge de la retraite n'était pas censurée par le Conseil constitutionnel. Donc on est dans l'attente de la prise de position des syndicats, mais à titre personnel, je considère qu'il faut que nous maintenions le soutien qui a été le nôtre à ce mouvement social.
Dernière petite question par rapport à la Ligue des droits de l'homme, qui est une association qui a besoin de bénévoles. On a dit aussi que si la réforme avait lieu, les gens vont travailler plus longtemps et on risque d'avoir moins de bénévoles au niveau des associations. Vous pensez que ça peut être un danger, une conséquence ?
Pas directement, parce que ça voudrait dire que les bénévoles sont uniquement des retraités. Et je pense qu'il est souhaitable que le bénévolat soit un bénévolat qui soit à la fois non genré et non générationnel. En clair, il faudrait que le bénévolat parte de l'enfance pour arriver jusqu'à l'âge le plus élevé. Donc je ne crois pas que ce soit un facteur d'altération du bénévolat. Reste que c'est peut-être pour nous l'occasion également de relancer des campagnes d'adhésion afin de convaincre des jeunes ou des vieux de se faire les défenseurs déterminés des droits humains.
Notre chronique s'achève, mais nous nous retrouvons mardi 18 mai. Vous pouvez également réécouter toutes nos chroniques en allant sur le site de la LDH section Nantaise. À très bientôt pour nos prochaines émissions ou dans nos locaux. La porte vous est grande ouverte. Bonne journée.
Oh.